Bonjour Père François Garot, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'homme et la femme dans la Bible.
Bonjour Raphaël.
Et aujourd'hui, vous allez nous parler de Jacob et Rachel, passion amoureuse et responsabilité sociale.
Chers amis, quelle grande joie de se retrouver pour un nouvel épisode de cette série sur l'homme et la femme dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons avancer un petit peu plus loin dans l'histoire des patriarches et de leurs épouses que nous avons déjà commencé à suivre depuis le mois de septembre. Aujourd'hui et le mois prochain, nous parlerons de l'histoire de Jacob, fils d'Isaac et fils d'Abraham, qui va épouser Léa et Rachel. Vous savez peut-être que les mariages de Jacob ont été relativement compliqués. En effet, Jacob va tomber follement amoureux de Rachel, mais la ruse de sa belle-famille va l'obliger à prendre d'abord Léa, la fille aînée de la famille, comme épouse, avant de pouvoir épouser Rachel, la fille cadette. Pour ceux qui rejoignent cette série au milieu de l'année, je vais me permettre de faire un petit rappel pour bien comprendre le contexte. Le but est de voir à travers la vie des patriarches et de leurs épouses, que nous avons appelées les matriarches, quel est le plan de Dieu pour l'homme en tant qu'être masculin et pour la femme en tant qu'être féminin. Alors nous avons commencé au mois de septembre et octobre avec le récit de la création, avec Adam et Ève comme premier couple de l'Alliance. Et il nous est apparu, en reprenant les premières pages du livre de la Genèse, que Dieu a voulu faire une humanité sexuée, c'est-à-dire avec deux genres différents, et il les a voulus complémentaires. Le péché originel a apporté son lot de souffrances et de désordres dans la relation entre l'homme et la femme depuis le premier couple. Et donc depuis ce jour-là, ils sont en souffrance et vivent dans la solitude, bien souvent l'un à côté de l'autre et non pas l'un en communion, en union avec l'autre. Mais leur vie va nous donner quelques pistes pour comprendre comment la grâce de Dieu, la présence de Dieu à travers le vécu de l'Alliance va reconstruire petit à petit l'identité masculine et féminine telle que Dieu l'avait prévue au commencement. Nous avons donc essayé de retracer la vie des patriarches et des matriarches pour essayer de voir comment leur vie et leur histoire peuvent nous aider à mieux harmoniser et à développer une juste relation entre le masculin et le féminin. Après donc avoir relu les récits de la création d'Adam et Ève, nous avons accompagné Abraham et Sarah dans leur pérégrination depuis la Mésopotamie jusqu'en Égypte en passant par la terre promise. Ce premier couple de patriarches en tant que tel nous a fait comprendre notamment que c'est le manque de communication ou le manque de dialogue qui casse la confiance et entraîne les grandes souffrances dans le lien de communion qui devrait exister entre l'homme et la femme dans le cadre du mariage. Nous avons ensuite arrêté notre attention sur la vie d'Isaac et de Rebecca. Ce couple nous a montré à quel point la solitude de l'homme se trouve véritablement comblée par la présence d'un autre lorsque celui-ci est ouvert à l'inconnu de Dieu et généreux. Aujourd'hui, je vous propose de commencer à considérer la vie de Léa, Rachel et Jacob pour voir comment Dieu leur a donné de vivre leur masculinité et féminité pour le bien de l'autre et quelles ont été les limites qu'ils ont rencontrées dans ce cheminement de vie. Et ici, je me permets de faire un petit aparté. Pour nous, chrétiens, le mariage est à l'image de l'alliance que Dieu fait avec l'humanité. Pourtant, il est évident que l'analogie ou la comparaison entre le couple mari-femme et celui du Christ-Église, auquel nous parlerons en fin d'année, est une analogie imparfaite. C'est-à-dire que l'image n'est pas complètement résolue, n'est pas complètement symétrique, et que le couple mari-femme est toujours en perfectionnement, alors que le couple que l'on pourrait appeler ainsi Christ-Église est toujours en réalisation. Alors, rappelons aussi très brièvement la colonne vertébrale de notre réflexion. Depuis la lecture du livre de la Genèse, en tout cas dans les deux premiers chapitres, nous avons compris que le masculin, malgré sa solidité apparente, n'arrive pas à trouver la paix profonde parce qu'il recherche à l'extérieur et loin de lui ce qui se trouve finalement soit à l'intérieur, soit tout près de lui. Adam, lorsqu'il se réveille de son sommeil et de sa torpeur, sait fondamentalement qu'il lui manque quelque chose. Une côte lui a été enlevée. Il est donc à la recherche. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu a fait quelque chose d'infiniment plus grand de cette côte. Il doit donc apprendre à rechercher ce qu'il ne connaît pas et à entrer dans le mystère de l'action et de l'œuvre de Dieu. La femme, elle, de son côté, sait qu'elle est la pièce manquante de quelque chose de plus grand qu'elle. Son existence la dépasse foncièrement. Et la puissance et la force de la femme se situent justement dans cette conscience d'être la pièce maîtresse d'une vie qui, sans elle, s'écoule sans raison et sans sens. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous occupera pour la réflexion d'aujourd'hui, et avant de lire le passage que nous avons choisi de la vie de Jacob et de Rachel, et ainsi que de Léa, nous allons essayer de remettre le passage choisi dans le contexte. Nous en avons parlé déjà le mois dernier. Jacob, grâce à la ruse de sa mère et aussi à la sienne, réussit à se faire passer pour Ésaü, son frère jumeau qui est plus grand que lui, de quelques heures. C'est lui qui devait hériter non seulement des richesses d'Isaac, qui étaient très grandes, mais aussi et surtout de la bénédiction qu'Abraham avait reçue. Lorsqu'Ésaü se rendit compte de la supercherie et que son père Isaac ne pouvait plus lui donner la bénédiction car Jacob la lui avait volée, il projette de tuer Jacob. Voyant cela, Jacob fut envoyé par son père Isaac dans la ville où son père Abraham était sorti afin d'y séjourner le temps que la colère d'Ésaü se calme et aussi pour trouver une épouse. En effet, il ne fallait pas que Jacob prenne de femme au pays de Canaan comme avait pu le faire Ésaü et qui était aussi un lieu de conflit entre Ésaü et son père. C'est donc sur la route vers la terre de son grand-père que Jacob va faire un songe. Peut-être que vous connaissez très bien ce passage. Dans ce songe, il voyait une échelle qui touchait et la terre et le ciel dans ses deux extrémités. Et il a entendu la voix de Dieu qui lui prononçait ou qui lui redisait la promesse qu'Abraham avait déjà entendue. Nous allons donc commencer la lecture du récit de l'arrivée de Jacob dans cette terre étrangère, la terre de Our, et nous sommes au chapitre 29 du livre de la Genèse. Jacob se remit en marche et partit pour le pays des fils de l'Orient. Tout d'un coup, il aperçut un puits dans la campagne, et près de ce puits, trois troupeaux de petits bétail. Les bêtes étaient couchées, car c'est à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Sur l'orifice du puits était posée une grande pierre. C'était là que se rassemblaient tous les troupeaux. On roulait la pierre posée sur l'orifice du puits, on abreuvait le petit bétail et on remettait la pierre à sa place sur l'orifice du puits. Jacob dit aux gens, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, le fils de Nahor ? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur demanda, « Va-t-il bien ?» Ils répondirent, « Il va très bien. Et voici sa fille Rachel qui arrive avec le petit bétail. » Jacob reprit, « Mais il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Abreuvez donc les bêtes et allez les faire paître. » Ils répliquèrent, « Nous ne pouvons le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. Alors, on roule la pierre posée sur l'orifice du puits et on abreuve le petit bétail. » Jacob parlait encore avec eux quand Rachel arriva avec le petit bétail qui appartenait à son père. En effet, elle était bergère. Dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, le frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, il s'avança, roula la pierre posée sur l'orifice du puits et abreuva le petit bétail de Laban. Alors Jacob embrassa Rachel et il éclata en sanglots. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père et le fils de Rebecca. Elle courut en informer son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit, l'embrassa et l'amena chez lui. Jacob raconta toute l'affaire à Laban et celui-ci lui dit « Tu es vraiment mes os et ma chair. » Jacob habita chez lui pendant tout un mois. Laban dit à Jacob « Devrais-tu me servir gratuitement parce que nous sommes parents ? Indique-moi donc un salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient délicats, tandis que Rachel avait belle allure et beau visage. Et Jacob se mit à aimer Rachel. Il dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban répondit « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste donc chez moi. » Jacob travailla 7 ans pour Rachel, 7 ans qui lui semblèrent quelques jours tellement il l'aimait. Jacob dit alors à Laban « Donne-moi ma femme, car les jours que je te devais sont accomplis et je veux m'unir à elle. » Laban rassembla tous les gens de l'endroit et fit un festin. Le soir venu, il prit sa fille Léa, l'amena à Jacob et Jacob s'unit à elle. Laban mit au service de sa fille Léa une de ses servantes, nommée Zilpa. Au matin, voilà que c'était Léa et non Rachel. Et Jacob dit à Laban, « Que m'as-tu fait là ? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? » Laban répondit, « Cela ne se fait pas chez nous de marier la cadette avant l'aînée. Achève la semaine de noces de celle-ci et nous te donnerons aussi celle-là pour le service que tu feras encore chez nous pendant 7 autres années. » Jacob agit ainsi. La semaine achevée, Laban lui donna sa fille Rachel pour qu'elle devienne sa femme. Laban mit au service de sa fille Rachel une de ses servantes nommée Bila. Jacob s'unit aussi à Rachel et il aimait Rachel plus que Léa. Il servit donc Laban pendant 7 autres années encore. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Rouben, car, dit-elle, le Seigneur a vu ma détresse et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, le Seigneur a compris que je n'étais pas aimée et m'a encore donné cet enfant. Elle l'appela Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, maintenant, cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Cette fois-ci, je louerai le Seigneur. » C'est pourquoi elle l'appela Judas. Ensuite, elle n'eut plus d'enfant. Alors commençons par souligner quelques traits de caractère de Jacob. Jacob, nous l'avons déjà vu le mois dernier, était tout d'abord le fils préféré de Rebecca, sa maman. C'était un homme qui préférait rester sous la tente, contrairement à son jumeau Ésaü, qui était un chasseur et un guerrier. De là, il a été déduit que c'était un homme d'études. C'est lui qui prenait le temps pour méditer et réfléchir sur le sens de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et qui était passée à Isaac. Mais, rassurez-vous, il était loin d'être parfait, loin s'en faut. Nous avons vu le mois dernier comment à 2 reprises, par la ruse, il va extorquer son frère. Il le fait d'abord pour voler son droit d'aînesse, en échange d'un plat de lentilles, et ensuite, il va dérober la bénédiction qui devait revenir à Ésaü. Jacob est donc très loin d'être scrupuleux et naïf. Nous pourrions même dire qu'il est profondément jaloux d'être le second. De quelques heures, certes, mais le second. Il va donc faire preuve d'ingéniosité et, soyons lucides, d'une forme de malhonnêteté pour tromper son frère afin d'être en position de force vis-à-vis de lui. Et cela, nous avons pu le constater, cela l'a conduit à l'exil dans lequel il se trouve. Lorsque Jacob arrive à Haran, au terme d'une vraie longue fuite vers l'est, il n'est plus du tout en position de force comme il pouvait l'être là où il avait grandi. Il est exilé parce que chassé de sa maison à cause des mauvais coups qu'il a infligés à son frère. Évidemment, ayant déjà volé la bénédiction de son père, il ne pouvait pas partir en emportant les richesses familiales. Il a vraisemblablement dû s'enfuir comme un voleur rapidement et donc sans rien emporter avec lui. Le voilà donc arrivant à la ville de destination tel un vagabond ou un nomade. Le récit que nous avons lu débute sur une rencontre qui va bouleverser lui et qui va aussi bouleverser l'histoire des patriarches. En effet, c'est à ce moment que quelque chose de complètement nouveau va apparaître dans l'histoire des couples. Et cette chose nouvelle, c'est la passion amoureuse. C'est peut-être même la seule fois ou de manière aussi flagrante que cela arrive. Jacob va tomber éperdument amoureux de Rachel et on pourrait presque dire du premier coup d'œil. Ainsi, Jacob et Rachel vont constituer le premier couple qui introduit la passion amoureuse au sein de la relation homme-femme, entre le masculin et le féminin. Cet élément de la passion amoureuse peut nous paraître aujourd'hui très évident. Et peut-être que nous pourrions vite fait de passer à côté. Mais lorsque l'on regarde les autres unions matrimoniales dans la Bible, eh bien, il faut bien reconnaître que cette rencontre fait figure d'exception. Et c'est pour cela, je pense, qu'il faut s'y attarder un petit peu parce qu'il va peut-être dire quelque chose du plan de Dieu. Alors, essayons de décrypter tout cela. Premièrement, comme on vient de le dire, Jacob arrive dans cette terre d'exil, qui est la terre de ses aïeux, les mains vides. Lorsqu'il arrive au puits, il se présente avec des affaires simples de voyage et rien de plus. Et lorsqu'il voit Rachel, qu'il l'embrasse comme pour lui montrer déjà la passion qu'il a pour elle, eh bien, il ne peut rien lui offrir comme forme d'engagement pour les fiançailles ou quelques garanties. Repensons simplement à ce que nous avions constaté lorsque Éliézer, qui était le serviteur d'Isaac, quelques années auparavant, était venu au même puits et il s'est présenté devant Rebecca, donc la maman de Jacob, avec énormément de chameaux, d'or, de bijoux, pour attirer l'attention de Rebecca et lui montrer qu'elle pouvait rentrer, qu'elle pouvait accepter de rentrer dans cette famille puisqu'elle était puissante et riche. Ici, c'est tout le contraire qui arrive. Jacob n'a pas de serviteur à envoyer en avant de lui pour négocier un arrangement de mariage. Il se présente lui-même comme un voyageur simple et dépouillé. Un autre détail mérite aussi d'être signalé. Rachel ne vient pas au puits comme pouvait le faire Rebecca, la maman de Jacob, quelques années auparavant. Cette dernière allait juste remplir sa cruche. Au contraire, ici, Rachel vient avec son troupeau ou le troupeau de son père, car il est dit qu'elle était bergère. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose aussi de très étonnant. Dans l'histoire de France, nous connaissons beaucoup de filles ou de femmes qui étaient bergères. Nous pouvons penser à Sainte Geneviève, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Bernadette. Mais à l'époque, ce métier comportait beaucoup plus de risques, puisqu'elles étaient exposées non seulement aux intempéries, mais surtout aux dangers des brigands et des voleurs. L'occupation de Rachel est donc pour le moins très inhabituelle. On pourrait expliquer cela par le fait qu'elle est la seconde des filles de Laban. Léa, l'aînée, qui est en attente de mariage, doit rester à la maison pour s'y préparer. C'est ainsi que et Rachel et Jacob vivent finalement dans une situation pour le moins précaire et dans une forme de vulnérabilité. C'est peut-être cela le point de départ qui va favoriser et sceller d'une certaine manière le coup de foudre que l'on est en droit d'imaginer de réciproque. Soulignons un autre point. Jacob va lui-même soulever la pierre du puits et abreuver le troupeau de Rachel. Rappelons que le puits et surtout ceux qui sont des puits dits de source, c'est-à-dire dont l'eau naît d'une résurgence souterraine, a non seulement une fonction vitale pour la population et pour les troupeaux, mais aussi une signification symbolique très forte. Dans le monde biblique, le puits est le symbole d'intelligence et de sagesse. En effet, la sagesse est un don de Dieu qui naît dans le cœur de l'homme qui craint et qui sait se mettre à l'écoute. Le sage puise donc à l'écoute de la parole vivante de Dieu une eau toujours nouvelle et qui ne craint pas les moments de sécheresse. Mais nous constatons que le puits est fermé lorsque Jacob arrive, alors que d'autres troupeaux attendent pour boire. Et Jacob, vous l'avez entendu, demande pourquoi ils attendent pour boire avant de repartir au pâturage. Et la réponse, eh bien, est qu'il fallait attendre le petit troupeau de Rachel. En effet, il faut savoir qu'autour de puits se joue quelque chose d'absolument crucial qui est de l'ordre de l'égalité et de la justice. Si le puits n'est pas un puits de source, comme il semblerait que ce soit le cas ici, il faut attendre que tous les animaux soient là afin de répartir de manière équitable cette ressource si précieuse. Si un troupeau passe en premier ou vient trop tôt, l'eau pourrait ne pas être suffisante pour toutes les bêtes. Il était donc nécessaire d'attendre que tous les troupeaux soient là avant de servir de l'eau. Or, nous l'avons vu, Jacob va outrepasser cet ordre de la justice, cette coutume, en ouvrant lui-même le puits pour faire boire le troupeau de Rachel. L'image qu'évoque cette rencontre est donc très éloquente. Alors que la disponibilité matérielle de l'eau imposait une relation uniforme entre les êtres humains, quel que soit leur sexe finalement, l'arrivée de Jacob bouleverse l'équilibre. Jacob, qui n'avait rien à donner comme cadeau ou garantie pour une forme d'union matrimoniale à Rachel, eh bien, trouve une opportunité pour donner à Rachel quelque chose, et ce quelque chose, c'est la priorité sur les autres. De toute façon, Jacob ou pas Jacob, elle aurait eu de l'eau, comme les autres jours. Mais cette fois-ci, son troupeau reçoit l'eau en priorité. Une préférence manifeste qui casse les codes ordinaires. Et Jacob, qui se trouvait démuni, se trouve ainsi grandi aux yeux de Rachel pour l'action qu'il vient de réaliser. C'est ce premier geste qui va montrer d'une certaine manière la passion amoureuse qui habite désormais le cœur de Jacob. Elle va se manifester à nouveau lorsqu'il l'embrassera quelques instants plus tard. Auparavant, le mariage était la condition pour garantir l'amour entre l'homme et la femme. C'est ce qui arrivait avec Isaac et Rebecca. Rappelons la dernière phrase avant leur mariage. Il est dit que Isaac introduit Rebecca dans sa tente, il l'aima et il se consola de la mort de sa mère. C'est donc seulement avec le troisième couple de l'Alliance, c'est-à-dire avec Jacob et Rachel, que est introduite l'idée de l'amour et de la passion. Donc voyons ce que cela va dire de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin. Alors avant d'entrer en profondeur dans cette considération sur l'arrivée de la passion amoureuse dans le lien matrimonial, soulignons encore un dernier aspect. À peine Jacob a-t-il embrassé Rachel, il se met à pleurer, à sangloter même. Extrêmement rares sont les hommes qui pleurent dans la Bible. La culture antique, au contraire, considérait qu'il n'était pas bon que l'homme pleure, particulièrement en public. Et voilà que Jacob, à peine arrivé dans une terre étrangère et démuni de toute ressource, embrasse la fille de son oncle et laisse son émotion prendre le dessus. Comment expliquer cette manifestation ostensible à la fois d'amour mais aussi de tristesse? Certains commentateurs y voient déjà la peine qui habitera ce couple à cause du mariage avec Léa, la grande sœur de Rachel, mais aussi le fait que Rachel mourra relativement jeune et qu'il ne puisse, lui, Jacob, être enterré avec elle. Mais c'est peut-être en oublier la relation personnelle de Jacob, ou plutôt la situation personnelle de Jacob. Ne pleure-t-il pas parce qu'il est exilé et parce qu'il n'a rien à offrir à celle qu'il aime déjà? J'estime que ses pleurs sont la manifestation évidente de sa solitude intérieure, celle que toute personne éprouve lorsqu'il est jeté dans le monde et qu'il cherche sa place dans celui-ci. Peut-être que ses pleurs sont le point d'arrivée d'un long cheminement intérieur qui l'a mené à découvrir sa solitude et sa finitude. À ce moment précis, il sait et il comprend que l'homme ne peut pas vivre seul. Il voit devant lui Rachel, qui est d'une certaine manière la chair de sa chair, puisqu'ils sont de la même famille. Et c'est évidemment elle, Rachel, qui va déclencher ses larmes. Mais c'est aussi elle qui va être la réponse à cette solitude. Rachel joue donc ici un double rôle. Nous ne sommes plus ici dans le jardin d'origine, dans l'Éden, mais nous sommes autour d'un puits. L'harmonie trouvée entre Adam et Ève et qui a été ravie par le péché est appelée à renaître de nouveau grâce à la sagesse du Créateur qui donne à ceux qui veulent bien s'y attarder la grâce nécessaire pour être féconds. Et les larmes que verse Jacob et celles que versera aussi Léa et Rachel dans les mésaventures qu'elles connaîtront l'une par rapport à l'autre dans le mariage seront la part que le Créateur demandera à chacun pour collaborer à la croissance et à la fructification de l'œuvre divine dans la vie de chacun et dans la vie du couple. L'eau divine, dont l'eau du puits est le signe, demande de l'effort pour qu'elle irrigue notre vie. L'eau humaine, c'est-à-dire la collaboration humaine qui est symbolisée par les larmes, porte le signe de l'amertume, puisque c'est par la souffrance et par l'offrande que l'homme collabore à l'œuvre de Dieu. La passion amoureuse qui naît donc de cette rencontre et de cette nouvelle relation qui ne prendra fin qu'au jour de la mort de Rachel n'est exprimée que par très peu de mots. Nous avons déjà évoqué le baiser dérobé de Jacob à Rachel. Et dans le reste du récit, il est bien notoire que Jacob a une préférence évidente pour Rachel. Comment peut-on donc décrire et comprendre la passion qui existe entre Rachel et Jacob ? Parce que effectivement, le texte biblique reste très pudique sur cette relation qui semble pourtant très intense. Et il est vrai que ce n'est pas dans les habitudes des récits sacrés de montrer l'intensité d'une passion amoureuse, mis à part le récit du Cantique des Cantiques. Mais quand bien même l'auteur sacré aurait voulu nous faire une description dans le détail de cette passion, qu'est-ce que cela aurait ajouté à la compréhension du message de Dieu ? Ainsi donc, lorsque le texte se montre prolixe et presque emphatique en décrivant la relation entre Rachel, Léa et Jacob, que veut-il nous faire passer comme message ? Eh bien, il souhaite nous faire comprendre les conséquences et les risques d'une relation passionnelle amoureuse au sein du mariage. Parce que oui, il y en a un. Parce que oui, effectivement, l'amour rend aveugle, et ça nous le savons tous, et que la cécité est bel et bien un handicap. En effet, ce qui constitue le cœur du récit que nous avons lu, ce n'est pas la passion amoureuse entre Rachel et Jacob, mais c'est paradoxalement la douleur et la souffrance de Léa. Et finalement, l'idylle qui était annoncée, que nous aurions pu imaginer entre le couple amoureux, du départ, eh bien, n'a pas lieu, puisqu'une tierce personne va venir perturber cette relation. Alors essayons de comprendre pourquoi. En effet, vous l'avez entendu, Rachel n'est pas seule. Elle est fille et sœur. Ces deux relations sont primordiales. Avant d'être amant ou amante, l'homme et la femme sont nécessairement fils ou fille et accessoirement frères ou sœurs. Ces relations sont irrécusables, c'est-à-dire que on ne peut pas les mettre en doute ni les contester. Dans l'ordre de la nature, elles sont premières et structurantes. Et même dans les situations les plus noires, le lien naturel de paternité et de maternité est supérieur à celui de la filiation et différent de celui de la passion amoureuse. Parce que ce dernier détermine toute notre personne et par conséquent, le lien aussi avec la personne avec qui nous pourrions avoir une relation amoureuse. Rachel est donc la fille d'un homme rusé et elle a une sœur plus aînée. Deux éléments qui vont profondément bouleverser la relation avec Jacob. Jacob, de son côté, a un frère jumeau, mais qui est son aîné et surtout qui est le fils préféré de son père. Ces éléments font partie de l'histoire de ces deux êtres qui se rencontrent. Et ils ne vont pas choisir ces relations, mais ils vont devoir conjuguer leur volonté avec cela. Et donc Jacob va devoir montrer à son père qu'il est capable, qu'il peut lui aussi être un homme fort, puissant et riche, capable d'égaler Ésaü et ainsi retrouver une stature devant lui. Et puis Rachel devra assumer le fait qu'elle n'est pas prioritaire dans les arrangements de famille et qu'elle va devoir subir et accepter la présence de sa sœur. Ainsi, la passion amoureuse qui naît d'un premier regard est vite polluée par le contexte familial et l'histoire de l'un et de l'autre. Mais c'est particulièrement la présence de Léa qui va attirer notre attention. Une fois que Jacob rencontre son oncle Laban, il va manifester rapidement le désir de se marier avec Rachel. Et puisque Jacob n'a pas d'argent ou d'héritage quelconque, il va s'arranger avec Laban pour trouver un juste prix afin de mériter d'épouser Rachel. Il va passer ainsi 7 années au service de celui-ci, qui sera son beau-père, afin d'épouser Rachel. Et il est dit que ces 7 années lui semblèrent comme juste quelques jours. Avec cette phrase, nous comprenons avec quelle passion Jacob aimait Rachel. Et tout au long de ces 7 années, impossible pour Jacob et encore moins pour Rachel de ne pas ignorer la tradition de donner d'abord en épouse la fille aînée de la famille. Et donc, en connaissant ces traditions, les amants ont eu tout le loisir d'imaginer une forme de stratagème afin de passer outre cette tradition. Certains commentateurs évoquent un signe distinctif que Rachel devait donner à Jacob le soir de la nuit de noces. Et pourtant, c'est bien Léa qui va d'abord épouser Jacob avant Rachel. C'est elle qui va quand même avoir la priorité comme le voulait la tradition. Et donc, certains commentateurs n'ont pas hésité à penser que c'est Rachel elle-même qui, voyant la peine et le désarroi qu'elle causait à sa sœur Léa, a accepté de changer sa place afin de donner à Léa un époux légitime, tout en sachant que Jacob n'allait pas cesser de l'aimer. Rachel aurait donc donné à Léa le signe distinctif qu'elle avait accordé à Jacob, afin que celui-ci s'unisse sans crainte avec Léa. En acceptant cette interprétation, cette lecture qui n'est pas si évidente comme ça dans le texte, eh bien, il convient finalement de louer la finesse de cœur de Rachel. Contrairement à Jacob, elle ne va pas se laisser aveugler par une passion qui va faire du mal à celle qui est sa sœur, mais qui n'est pas aimée comme elle-même l'est. Rachel comprend qu'il y a ici en jeu bien plus que son propre bonheur et que l'assouvissement d'une passion. Elle se rend bien compte que la passion amoureuse demande l'exclusivité et donc une forme d'enfermement sur soi qui exclut nécessairement l'autre. Jacob est bien incapable de comprendre cela. Lorsqu'il donne à boire de l'eau au troupeau de Rachel, eh bien, rappelez-vous, il commet une forme d'injustice ne permettant pas aux autres troupeaux de se désaltérer de la même manière que le troupeau de Rachel. Et donc, Rachel anticipe le malheur définitif de Léa en lui donnant un mari et en acceptant de partager cette situation tout en laissant de côté sa passion amoureuse. C'est donc à l'insu des deux amoureux, indépendamment des traditions et des coutumes locales, qu'une injustice va émerger. Et c'est peut-être là un des fonds de l'histoire et une des leçons de ce troisième couple de l'Alliance. Cette histoire nous dit que la passion amoureuse n'est pas ce qui fonde nécessairement le mariage. De plus, il nous dit que la passion amoureuse apporte avec elle le danger de l'exclusion. En effet, pour que le couple soit dans la vérité, il faut qu'il demeure toujours ouvert à autrui, à celui qui ne suscite en nous aucune passion, aucune envie, aucun désir. Peut-être que pour nous-mêmes et pour nos contemporains, cette idée de mariage sans passion n'est pas tolérable. Il n'en demeure pas moins que le risque est de toute évidence plus qu'actuel. Au cœur de cette problématique, Jacob est le plus aveuglé des deux. Déjà, il n'avait pas anticipé la détresse de son frère Ésaü lorsqu'il a volé son droit d'aînesse et la bénédiction de son père. Et de nouveau, il n'arrive pas à ouvrir les yeux sur la détresse de Léa, qui est méprisée alors que Rachel est adorée. Et donc le matin de la nuit de noces, lorsqu'il se rendra compte que le mariage a été fait avec Léa et non pas avec Rachel, son étonnement sera grand. Ainsi, celui qui avait l'habitude de tromper les autres se trouve pris à son propre jeu. Il devra donc patienter encore 7 années afin de vivre librement de la passion qui un jour l'avait habité. N'est-ce pas là une leçon pour nous faire comprendre que la passion a un prix? Il a été de 14 années d'attente et de travail pour Jacob afin de trouver sa liberté. 14 années au service de quelqu'un qu'il savait en plus malhonnête. Certains pourraient exalter sa patience et la force de sa passion. Et rien ne dit qu'il n'a pas souffert lui-même dans une forme de résilience exaspérée, de s'être fait berner et de se retrouver à vivre avec une personne qu'il n'a pas choisie et envers laquelle il a désormais des responsabilités. Et au contraire, Rachel sera celle qui ouvrira le couple à autrui. C'est elle qui va permettre à la passion amoureuse de ne pas consumer les amants, mais de maintenir une juste distance afin de permettre à une autre de trouver la vie. Nous verrons le mois prochain comment est-ce que les histoires des différents enfantements, à la fois de Léa et puis ensuite de Rachel, vont montrer cela. Mais c'est bien Rachel qui saura mettre en priorité non pas la passion, mais l'harmonie du groupe et de la société. Dans le contexte actuel, où les femmes sont invitées à travailler dans la société au même titre et parfois à la place de son homologue masculin, il ne faut surtout pas oublier la spécificité qu'apporte la femme dans le cadre du travail. Ce qui est demandé aujourd'hui à la femme, c'est parfois d'être un substitut de l'homme. Alors que le récit que nous avons entendu nous fait comprendre que c'est un modèle, que c'est le modèle d'aujourd'hui qui doit évoluer car il est conçu de manière monogenrée, si on veut accepter cette expression. En effet, lorsque l'argent ou le pouvoir ou la renommée, qui sont en fait de véritables passions dans lesquelles s'engouffre à corps perdu la société, la femme est celle qui peut faire ouvrir les yeux sur la présence d'autrui, faire la présence de celui qui est oublié, qui est isolé. Et c'est elle qui peut lui accorder sa place que l'homme parfois ne lui donne pas. Alors le mois prochain, nous nous retrouverons pour avancer un petit peu plus en profondeur vers cela, pour voir comment est-ce que Jacob sera celui qui apportera la paix lorsque la rivalité entre les épouses éclatera au grand jour.
Merci beaucoup, Père François Garot. Nous aurons la joie de vous retrouver dans un mois pour une nouvelle émission de L'Homme et la Femme dans la Bible. Chers auditeurs, c'était notre émission L'Homme et la Femme dans la Bible. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou sur notre application Radio Maria Play.